Radio Okapi.
À la présentation, Billy Van Lutumba.
Nous parlons en ouverture de ce journal des efforts d'adaptation des populations de la ville de Goma face à la fluctuation du taux de dollar. Les petits commerçants qui s'approvisionnent avec le dollar pour revendre en France en plaignent énormément. Illustration en début de ce journal. À suivre aussi, c'est cette mise en garde et conscientisation du nouvel inspecteur général de la police, Patience Moshé Diaw, à tous les policiers véreux et surtout ceux qui s'adonnent à la mégestion et à la violation des prescrits réglementant une police professionnelle. Eberhard Kolongele, ministre en charge du numérique et initiateur du code numérique, vous le suivez en fin de ce journal comme invité. Il revient sur cette loi et sur son application. Tous ensemble, scrutons tout de suite les autres aspects de l'actualité congolaise. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Parlons tout d'abord de cette messe sur l'assassinat du député et ancien ministre Chérubin Okende. Une messe en sa mémoire est actuellement en cours à Kinshasa dans la cathédrale catholique Notre-Dame du Congo. Dans la prédication que le cardinal Ambongo vient à peine de clôturer, l'autorité catholique a souhaité à plusieurs reprises que le meurtre de Chérubin Okende ne reste pas impuni. Fridolin Ambongo regrette aussi, selon lui, que les Congolais sont devenus violents physiquement et verbalement. Prennent part à cette célébration quelques membres du gouvernement et d'autres personnalités comme Moïse Katumbi et l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Comme dit tout de suite dans le sommaire, à Goma, le franc congolais continue à se déprécier chaque jour face au dollar américain. Ce mercredi, le taux de change varie selon les quartiers. À titre d'exemple, le franc congolais se change à 2500 francs congolais contre 1 dollar américain chez les cambistes dans certains quartiers de la ville. Tandis qu'au centre commercial de Biriré, au centre-ville, il va de 2600 francs congolais à 2650. Les petits commerçants qui vendent en francs congolais et achètent leurs marchandises en dollars s'indignent de cette instabilité du taux de change sur le marché. Bernardine Diambo a promené son micro dans les rues de Goma.
En Goma, les taux d'échange diffèrent d'un quartier à l'autre. Au quartier Katindo, par exemple, un dollar américain s'échange aujourd'hui chez les cambistes dans des boutiques et magasins à 2400 francs congolais pour certains, tandis que pour d'autres, ce sont 2500 francs congolais. Au centre-ville et au centre commercial de Biréré, les taux d'échange n'est pas stable. Chaque jour qui passe, les taux varient. Cette instabilité ne facilite pas la voie de petits commerçants qui vendent leurs marchandises en francs congolais. Nombreux d'entre eux disent travailler à perte.
Il y a une semaine, les taux étaient à 2500. Là maintenant, c'est à 2600 quand nous partons acheter la farine et d'autres matières premières que nous utilisons. Ça nous pénalise vraiment et il y a aussi les prix du pain qui ne changent pas. Donc à un moment, nous serons bloqués vu que nous servons dans la boulangerie. Les pains, on consomme ça quotidiennement.
Même son des cloches chez les femmes vendeuses de divers. Elles vendent leurs produits essentiellement en francs congolais. Pour elles, c'est un calvaire pour renouveler leur stock face au dollar. Sachez que cette dépréciation du franc congolais contre le dollar américain touche les paniers de la ménagère. Tous les produits manufacturés, vivriers et les services ont haussé leur prix. Les gomatraciens tournent leur regard vers le gouvernement pour voir la faisabilité de mesures prises récemment pour faire face à cette instabilité du taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar américain. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les ennemis de la réforme de la police seront bien suivis par le nouvel inspecteur général de la police. Adresse du commissaire divisionnaire Patience Moshé Diaw ce mercredi ici à Kinshasa lors de sa prise de fonction comme nouveau commandant de l'IG, Inspection générale de la police nationale congolaise. Désormais à la tête de ce service de contrôle et d'audit au sein de la PNC en remplacement du commissaire divisionnaire Raoul Chaloué, Patience Mouchid recommande à tous les policiers, selon chaque grade, à se conformer aux prescrits légaux pour faire de la police nationale congolaise plus que professionnelle, républicaine, démocratique, accessible et respectueuse des droits fondamentaux du genre ainsi que des libertés publiques. On l'écoute.
Nous ne ménagerons aucun effort pour faire respecter singulièrement aux policiers que nous sommes toutes les lois du pays, principalement celles qui régissent la police nationale et celles relatives aux droits de l'homme et aux violences faites aux genres, y compris celles qui utilisent les biens de la police pour des fins personnelles. Je serai derrière eux. Ceci ne sera possible qu'avec l'accompagnement notamment de notre gouvernement, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de nos partenaires traditionnels, des unités amies représentées aujourd'hui ici, et de tous les cadres et agents de l'Inspection générale de la police nationale, qui doivent également avoir un comportement irréprochable avant d'être de bons inspecteurs sur le terrain. Il ne faut pas inspecter le commissariat général si toi tu es un mauvais inspecteur. Notre souhait ardent est celui de voir l'Inspection générale au sein de la police nationale congolaise être non seulement une structure d'audit et de contrôle, au vrai sens du terme, mais aussi un traumatisme pour les réfracteurs de la réforme de la police.
Mise en garde et conscientisation qu'appuie fermement le vice-ministre de l'Intérieur présent à la cérémonie de passation de commandement. Ce dernier recommande en sus la formation efficiente des inspecteurs chargés de l'audit et de tout contrôle ainsi que de tous les autres agents de la police. À Ituri, la coordination de la nouvelle société civile du territoire de Mambasa a lancé mardi une pétition pour demander aux autorités de soutenir les groupes d'autodéfense qui appuient les FRDC dans la traque des rebelles d'ADF dans cette entité territoriale. Le responsable de cette structure citoyenne indique que cette mesure a pour objectif d'appuyer les efforts de l'armée pour combattre ces hors-la-loi dans des zones où les militaires des FRDC ne sont pas déployés. Une démarche désapprouvée par les autorités provinciales des FRDC. Pour le porte-parole des opérations militaires à Ituri, ces jeunes doivent rejoindre le processus de désarmement et démobilisation en cours pour permettre à ceux qui répondent aux critères d'être intégrés dans l'armée en toute légalité. Le lieutenant Jules Nkongo est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
S'ils veulent bien soutenir l'armée, ils n'ont qu'à déposer les armes et d'adhérer au processus de PDDRCS. À la suite, ceux qui sont forts et ceux qui vont respecter les critères d'adhésion au sein des forces armées vont servir l'armée pour arriver évidemment à remplir le rang des forces armées de manière ordonnée. Ce n'est pas de cette manière parce que nous ne savons ni leur motivation profonde et on ne connaît même pas leur identité. La sécurité reste une matière totale exclusive pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ils doivent que suivre les instructions, c'est-à-dire qu'ils déposent les armes, qu'ils créent un climat de paix, de sérénité, qu'ils cessent de tuer la population, qu'ils cessent de s'attaquer à la population.
Dans le Sud Kivu, les travaux de construction des maisons destinées aux sinistrés de Calais sont en cours sur le site de la colline de Loako qui servait jadis d'aérodrome. Déjà une cinquantaine de maisons en planches sont en chantier sur ce site situé à une trentaine de kilomètres des lieux du sinistre Bouchouchou et Nyamukubi. La fondation Denise Nyakiero-Tshisekedi met les bouchées doubles pour qu'avant la prochaine saison pluvieuse, 200 maisons à ossature en bois soient achevées. Jean Kassami nous en parle.
Pour aller vite en besogne, quatre entreprises de construction se partagent la tâche. Chaque entreprise a l'obligation d'ériger 50 maisons dans moins de deux mois. Établie sur un terrain de 5 mètres sur 6, chaque maison a deux chambres, un salon, une douche et un balcon. Une maison par ménage, mais avec une toilette commune pour deux ménages. Le maître d'ouvrage n'est autre que la fondation Denise Nyakeru, épouse du chef de l'État. Les jeunes des villages avoisinant les sites de Loako sont associés aux travaux après leur mécontentement qui avait été vite réglé par les sages de Calais, parmi lesquels Richard Magadjou.
Alors, il n'y a pas eu d'arrêt des travaux, mais il y avait, c'est vrai, des sursauts parce qu'il y avait des lamentations et nous avons été saisis à distance. Nous nous sommes dit, nous allons quand même venir. C'est chez nous, on ne peut pas accepter qu'il y ait des brutalités, des combats violents parce que la jeunesse de Calais, et des Djibandes en particulier, ne peut pas manquer d'exécuter un ou tel autre travail qui est nécessaire ici dans les terrains de Loako où on est en train de construire en faveur des sinistrés de Bouchouchou.
Les partenaires du maître d'ouvrage renseignent que d'autres maisons seront érigées au fur et à mesure que les sinistrés vont exprimer massivement les besoins de venir les occuper. Kalehe, Jean Kassami, Radio Okapi.
Province du Maïndombe, à présent, aucun chef d'établissement n'a le droit d'inscrire un élève dans son école moyennant un un quelconque frais ou sans son dossier complet. Cette mise en garde est du directeur de la province éducationnelle Maïndombe 3 à l'endroit des directeurs et préfets de sa juridiction, conformément au calendrier scolaire édition 2023-2024 en sa possession. Nestor Ntumbandaye a lancé cette mise en garde mardi à Koutou, chef du directoire de même nom et siège de cette division provinciale de l'EPST. Selon lui, l'inscription des élèves est gratuite dans les écoles publiques et le dossier d'élèves est obligatoire pour être inscrit. Nestor Ntumbandaye dans cet extrait choisi par Irène Baume.
Le calendrier scolaire 2023-2024 gare aux chefs d'établissement qui se mettent à demander quoi que ce soit pour l'inscription des élèves. Et gare aux chefs d'établissement qui, pour confirmer des places aux enfants, ils demandent de l'argent. En tout cas, c'est une antivaleur. Ils doivent faire attention pour ces inscriptions qui sont gratuites. Il y a toujours ce que nous appelons les dossiers de l'élève. L'enfant se présente chez le chef d'établissement pour son inscription. Il doit avoir son dossier. S'il n'a pas de dossier, c'est qu'il veut tricher quelque part. Parce que nous constatons ces derniers temps, comme les préfets surtout, ne s'échangent plus de palmarès. Vous pouvez trouver un enfant qui a échoué dans une classe et qui fuit l'école là et qui va se retrouver dans la classe supérieure dans une autre école. Mais le préfet doit faire attention parce qu'à la rentrée scolaire, les inspecteurs qui passent d'une classe à l'autre, s'ils découvrent que vous, préfet, vous avez inscrit un enfant qui a échoué dans une école et toi tu l'as admis dans une classe supérieure dans une autre école, on te sanctionne et on fait descendre l'enfant sans procès. Parce que nous voulons que les choses changent. Il faut que les choses aillent pour le mieux pour ce qui concerne l'enseignement.
Nous nous rendons à présent dans la province de Lomami où une délégation du ministère de la fonction publique séjourne à Cabinda. D'après Joki Poi, chef de la délégation, le but de cette mission est de traiter tous les cas de la mise en retraite de la première et deuxième vague des agents et cadres de la fonction publique de la province de Lomami. Joki Poi, chef de la délégation, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Nous avons échangé sur la situation de la mise à la retraite de la première vague et de la seconde vague, les difficultés qui sont rencontrées au niveau provincial, les cas d'avis et des propositions, des solutions par rapport à ces cas-là. Nous sommes venus premièrement remettre les notifications pour la seconde vague. Et deuxièmement, nous sommes venus nous rassurer de l'effectivité de paiement des indemnités, de faire les carrières pour ceux de la première vague et nous assurer aussi que ceux qui ont déjà été notifiés et qui ont touché les indemnités, ils ne prennent plus, donc ils ne sont plus en fonction. Et puis, résoudre tous les cas laissés en suspense, les cas des ayants droit par exemple, l'agent est décédé alors que les actes étaient déjà signés, voir comment il faut servir sa famille, son dans les droits. Le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, il a vraiment la volonté de leur donner un repos honorable et ils doivent compter sur lui. Toutes les questions qui sont liées à leur mise en charge vont être prises en compte.
Dans la province de La Tchopo à présent, Madame la gouverneure de province a signé en date d'hier deux arrêtés provinciaux portant attribution des concessions forestières de la communauté locale de Yaïnyongos du secteur Yalikanja dans le territoire d'Isangui. Ces arrêtés interviennent en marge de la 8e édition de la table ronde provinciale multi-acteurs sur la foresterie communautaire tenue à Kisangani du 11 au 14 juillet dernier. Sur quoi se base l'initiative de la foresterie communautaire et quel est l'avantage d'en disposer? Les explications avec Jacques Moukonkole.
L'initiative de la foresterie communautaire se base sur la gestion durable des forêts et du capital naturel dans son ensemble. Ceci grâce notamment à une série d'activités forestières et agricoles. Celle-ci vise l'amélioration du cadre économique et des conditions de vie des populations locales. Concernant les arrêtés des déconcessions forestières, ils couvrent une superficie de 11 396 hectares, dont 3 402 pour la communauté de Yaïnyongo. Celle-ci s'étend dans l'entité administrative d'Opala, le 7 034 hectares pour la communauté locale de Yaïnyongo-Romé dans celle d'Isangui. Ces deux titres sont obtenus grâce à l'accompagnement depuis 2019 du support ICRAF. Dorcas Kankou, sa porte-parole, explique les avantages de ces arrêtés provinciaux.
Ces arrêtés provinciaux ont notamment l'avantage de sécuriser du point de vue foncier la concession forestière de la communauté locale, permettre de lancer des activités de promotion de développement local, donner une connaissance légale aux institutions locales visant le renforcement de la gestion et de la cohésion sociale.
Désormais, les deux communautés peuvent s'engager dans la deuxième phase de mise en œuvre qui prévoit la préparation d'un plan de gestion, l'exploitation de la forêt et l'élargissement des activités génératrices de revenus. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Notons que ces deux titres portent à 5 le nombre des concessions forestières des communautés locales dans la province de La Tchopo. Les ministres de la Communication et Presse Patrick Muyaya et les Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou ainsi que le directeur national des Jeux de la Francophonie Isidore Nkwandja ont animé un briefing de presse hier mardi 17 juillet 2023 au site du Stade des Martyrs de Kinshasa. Les questions liées à l'organisation et le partenariat ont été posées par la presse présente. Plus de détails avec Enoch Matondo.
Pour Isidore Nkwandja Njembo, directeur national des Jeux de la Francophonie, les infrastructures sont presque prêtes et la République démocratique du Congo peut accueillir ces Jeux.
Nous avons déjà accueilli à peu près 200 quelques, il y a d'autres qui arrivent ce soir. Nous allons atteindre jusqu'à 300 athlètes ici, avec leur accompagnateur, une trentaine. Ils sont logés à l'université, pas comme a dit son excellence, monsieur le ministre. Il y a certainement ce que vous avez certainement vu, mais vous devez savoir que l'université de Kinshasa, ça fait presque plus de 2 ans, il n'était pas habité. Et donc la résidence n'était pas utilisée parce qu'on était en train de faire les travaux.
À propos du problème d'adduction d'eau dans le site de l'université de Kinshasa, de ce qui a défrayé la chronique ces 2 derniers jours, le directeur des Jeux de la Francophonie a ajouté que les travaux sont en cours et que des citernes d'eau sont déjà opérationnelles dans ce site. De son côté, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, a rassuré que les préparatifs des athlètes se déroulent normalement, bien que le programme des préparatifs à l'extérieur du pays n'a pas abouti. Les journalistes pourront effectuer une visite guidée dans les différents sites avant le démarrage des Jeux, a rassuré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Presse.
Actualité internationale.
Le plus haut responsable chinois pour la diplomatie, Wang Yi, effectuera une tournée en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et en Turquie dans les prochains jours, a ainsi annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères. Wang Yi participera au 13e sommet des hauts représentants des BRICS sur la sécurité à Johannesburg le 24 et 25 juillet et visitera le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et la Turquie avant et après le sommet, selon un communiqué du ministère. Les BRICS sont un groupe de 5 puissances émergentes, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, qui se présentent comme une alternative aux structures de gouvernance mondiale dominantes dirigées par les pays occidentaux.
L'invité.
Notre invité est Berhand Kolongele, il est ministre en charge du numérique et initiateur du code du numérique. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, il revient sur cette loi et sur son application tout en demandant aux personnes qui sont victimes des faits et comportements érigés en infraction de saisir la justice pour faire valoir leurs droits. Et Berhand Kolongele s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre Berhand Kolongele, bonjour.
Bonjour.
Le code du numérique a été promulgué il y a quelque temps et sur le terrain, nous avons l'impression que avant code du numérique égale après code du numérique, d'autant plus qu'il y a certaines dérives que l'on constatait sur les réseaux sociaux par exemple, qui continuent à être là et sans que la loi ne soit appliquée à l'encontre de ceux qui en sont les auteurs.
Le texte dès qu'il est promulgué, il devient faisant partie du droit congolais. Ce texte ne vaut que ce que les acteurs en font. Donc, cette réglementation, qui est une réglementation nouvelle, a vocation à s'appliquer sur toute l'étendue de la République. Mais pour que les acteurs puissent appliquer ce texte, il faut qu'ils le connaissent. Donc, il y a une phase de vulgarisation de ce texte. Ça ne concerne pas que les citoyens lambda, mais ça concerne également les acteurs qui participent à l'application de la loi. Je veux parler par là les corps de magistrats, que ce soit les magistrats du parquet, que ce soit le magistrat du siège. Donc, nous sommes conscients que, en tant que texte nouveau, et vu l'étendue du territoire, ce texte n'a pas encore été suffisamment vulgarisé, n'est-ce pas, auprès de la population. Et voilà pourquoi vous n'avez pas beaucoup de cas d'application de ces textes, parce que beaucoup sont en train de les découvrir. Il faudrait également que les citoyens qui sont victimes des comportements abusifs, qui sont qualifiés dans la loi nouvelle comme étant infractionnels, que ces citoyens victimes aient également la présence d'esprit de se servir de cet outil pour assurer la défense de leurs intérêts.
Pourquoi est-ce que les magistrats ne se saisissent pas d'office?
Les magistrats, comme les autres citoyens, ont besoin eux aussi de pouvoir être informés de l'existence. C'est vrai qu'il y a une présomption légale qui dit que dès lors que le texte a été publié au journal officiel, il est censé être connu. C'est une présomption. Ça signifie que ce n'est pas toujours la réalité. On peut apporter la preuve contraire que vous avez vu les avocats. Il y en a qui étaient surpris de voir que certains comportements dont ils se plaignent de la part d'un certain nombre de citoyens, mais ils se sont rendus compte que ces comportements-là ont été incriminés dans la loi. Ils étaient surpris de savoir que les législateurs condamnent non seulement le fait de créer et de mettre sur les réseaux des fausses nouvelles, des fausses informations, mais aussi le fait de le relayer en sachant que ce sont des bêtises, ce sont des fausses nouvelles. Et donc, celles des personnes qui ont été victimes de ce genre de comportement, ou qui le sont encore, mais qui ne sont pas au courant, comment voulez-vous que ces personnes-là assurent la défense de leurs intérêts? Imaginez-vous, a fortiori, si ce sont des magistrats qui ne connaissent pas cela. Comment vont-ils le faire? Voilà pourquoi le travail de vulgarisation s'impose comme un travail de longue haleine qui prendra le temps que ça prendra. Mais on doit faire un effort et c'est ce qu'on est en train de faire depuis un certain moment.
Nous voyons qu'il y a aussi des imputations dommageables. Ça saute aux yeux, ça ne demande pas forcément que la loi soit vulgarisée quand on sait qu'une imputation dommageable, c'est une infraction.
Le Code du numérique a prévu un certain nombre de règles pour protéger les systèmes informatiques, pour protéger la donnée. Et ces infractions-là sont de deux catégories. Le texte a commencé par prévoir que constitue une infraction à la législation du numérique le fait de commettre des infractions de droit commun au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique devient une infraction à la législation numérique. Par exemple, les imputations dommageables. Deuxième catégorie d'infractions, ce sont des infractions spécifiques au code du numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas été prévues par d'autres textes. Nous avons, par exemple, les atteintes au système informatique. La falsification des données. Par exemple, vous avez la base des données sur la fonction publique. Vous allez là-bas, vous insérez le nom d'un agent avec un numéro matricule de quelqu'un d'autre que vous voyez, mais vous allez corrompre un système informatique d'autrui. Vous êtes en train de falsifier les données. Vous faites de la fraude informatique. Tout ça sont ce que nous appelons des atteintes au système informatique. Mais vous avez également des atteintes dans le domaine de l'Agence nationale de cybersécurité. Vous mettez des contenus abusifs sur les réseaux. Par exemple, la diffusion d'un contenu tribal, raciste, xénophobe, la pornographie infantile sont des comportements qui sont prévus, punis par la loi. Et les personnes qui sont victimes de ce genre de comportements sont également invitées à pouvoir les dénoncer auprès des parquets, à porter plainte.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.